RCF.
Le 18 mars 1871, à la semaine sanglante de mai 1871, Paris plonge dans une période insurrectionnelle, restée dans l'histoire sous le nom de Commune de Paris. 71 jours qui sont aujourd'hui encore une référence historique pour les mouvements de gauche. Claire Loher, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur d'un livre intitulé « Le siège et la Commune de Paris, acteurs et témoins racontent ». Ce livre, vous l'avez écrit avec votre confrère Alain Frère-Jean. Il est paru aux éditions de l'Archipel. Vous êtes normalienne, agrégée d'histoire. J'aimerais que vous nous disiez un mot tout d'abord sur le choix de cet angle particulier dans votre livre, à savoir celui du point de vue des acteurs et des témoins.
En effet, ce livre, nous l'avons voulu comme un témoignage de ceux qui ont vécu les événements, qu'il s'agisse du côté des communards, c'est-à-dire ceux qui étaient favorables à la Commune de Paris, que du côté de ceux qui étaient opposés à ce mouvement politique. Parce que, comme c'est un mouvement qui a été très instrumentalisé par les mouvements politiques, par les partis politiques, et qui a eu, à l'échelle de l'histoire, une répercussion importante sur la vie politique de notre pays, eh bien, il était difficile d'avoir des témoignages fiables, entre guillemets. Et donc, c'était intéressant de retrouver ce que les témoins avaient écrit à l'époque des faits, et non pas postérieurement aux faits, en réécrivant d'une certaine manière l'histoire.
Et il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de traces écrites ?
Oui, il y a beaucoup de traces écrites, puisque un certain nombre de Parisiens se sont retrouvés piégés à l'intérieur de Paris et donc ont dû écrire à leur famille qui se trouvait à l'extérieur. Certains d'entre eux également ont tenu des journaux intimes. Nous avons eu la chance de retrouver le journal de Victorine Brochet, qui était une femme du peuple, une femme simple, mais qui savait écrire et qui raconte au jour le jour ce qui lui arrive pendant ces événements.
C'est donc très précieux pour les historiens de pouvoir s'appuyer sur des sources de première main comme ça.
Les sources de première main sont toujours moins dangereuses pour l'historien que les réécritures a posteriori, surtout quand il s'agit de personnages politiques qui vont réécrire l'histoire en lui donnant un sens particulier, comme c'est le cas par exemple des mémoires de Louise Michel.
Et en même temps, le témoignage de ces témoins et de ces acteurs, ben évidemment, il est toujours très connoté parce que très subjectif. C'est une histoire individuelle dans la grande histoire avec sa propre expérience et son propre ressenti.
En effet, surtout quand on a vécu des événements aussi traumatisants qu'une guerre civile, on ne peut pas rester neutre, c'est impossible. Donc on a forcément un point de vue sur les événements, oui.
Remettons un peu la Commune de Paris dans un contexte plus large. Est-ce qu'il faut en chercher les racines en amont dans d'autres types de révolutions et dans d'autres événements politiques de l'histoire du 19e siècle ?
La Commune de Paris est véritablement l'aboutissement d'un mouvement historique qui se produit tout au long du 19e siècle en France et qui vise à la mise en place du gouvernement républicain. Ce mouvement commence même finalement avec la révolution de 1789, puisque la première république date de 1792 en France, et que tout au long du 19e siècle, il y a des tentatives de remettre en place un gouvernement républicain, en particulier en 1848, lors de la seconde république qui est renversée par le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Donc, quand en 1870, on proclame la République le 4 septembre au balcon de l'Hôtel de Ville de Paris, on est dans la continuité historique d'un pays qui cherche à mettre en place un gouvernement républicain, ce qui est d'ailleurs, à l'époque, minoritaire dans le monde. Il y a très peu de républiques dans le monde à cette époque.
Est-ce qu'on peut dire que tout ça se joue aussi sur fond de révolution industrielle ?
En effet, on ne peut pas séparer l'histoire politique de l'histoire économique, en particulier au XIXe siècle, puisque la France va connaître des bouleversements considérables par la mise en place d'un tissu industriel qui touche principalement les grandes agglomérations, les grandes villes, où des fortes concentrations ouvrières apparaissent à partir des années 1830 en particulier. Et Paris fait partie de ces grandes concentrations. Il y a un mouvement ouvrier qui se met en place avec des revendications des ouvriers autour de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie, et qui vont effectivement trouver leur expression au moment de la Commune.
De manière insurrectionnelle. Oui, c'est une véritable révolution. Vous avez même parlé de guerre civile.
Ah, c'est une guerre civile, clairement, puisqu'on a des Français qui combattent des Français et qu'il y a des morts des deux côtés. Donc on est exactement dans la définition d'une guerre civile, oui.
Alors de cette période, il nous reste tout un tas d'archives. Vous avez parlé des archives, notamment des traces écrites. Il reste aussi des chansons, des chants populaires. On en écoutera un certain nombre dans ces entretiens. On commence par la communarde.
Comme les rades dans Paris par trahison, on nous a pris le macadam et les pavés de notre sang furent lavés. Lavés étant lavés, qu'ils en sont déjointés.
Les gredins de capitulaire ont mitraillé les communards. Mais devant messieurs les Prussiens, tremblant comme des petits chiens, ils ont vendu leur peau, leur pays, leur drapeau.
Dansons la communarde et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde et tenons bon, non, de non.
Voilà, donc on aura reconnu bien sûr l'air de la Carmagnole et les paroles revisitées en lien avec la Commune de Paris. Un petit mot sur ces chants populaires, Claire Loher.
Oui, les chants populaires sont vraiment partie intégrante de la culture populaire de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, on chante beaucoup. On achète les chansons, les paroles des chansons à des vendeurs ambulants, en particulier dans les rues de Paris. Donc, on pratique le chant et ces chansons sont beaucoup reprises par la population, ce qui leur donne bien sûr un écho considérable.
Alors évidemment, cette Commune de Paris, elle est totalement indissociable de l'événement tragique qui marque la France entière et en particulier la ville de Paris. À partir de septembre 1870, la défaite des troupes françaises contre les troupes prussiennes, contre les troupes allemandes.
En effet, la Commune trouve son terreau dans une guerre, non pas civile, mais une guerre contre un ennemi étranger, puisqu'il s'agit de la Prusse. Napoléon III a fait l'erreur de déclarer la guerre à la Prusse de Bismarck et il est défait devant Sedan. Et il doit capituler et il perd de ce fait son trône impérial. Le régime impérial disparaît à ce moment-là et le 4 septembre 1870, la France bascule dans la République. On se débarrasse de l'empereur et on proclame au balcon de l'Hôtel de Ville de Paris la République, ce fameux régime qu'on a essayé d'instaurer déjà à deux reprises en France, sans succès.
Qui est à la tête du pays, du gouvernement à ce moment-là? Et qui proclame la République?
C'est l'heure de gloire pour ceux qui ont résisté à Napoléon III pendant tout le Second Empire, c'est-à-dire que les républicains historiques qui se rassemblaient dans des clubs, qui avaient réussi parfois à se faire élire dans des élections locales, peuvent enfin prendre le pouvoir. On trouve par exemple Léon Gambetta, qui est une des grandes figures du républicanisme. On trouve également Jules Favre, qui va jouer un rôle important, puisque c'est lui qui va négocier la paix avec les Prussiens. On trouve également Adolphe Thiers, qui va jouer un rôle très important au moment de la répression de la Commune.
Alors il faut évidemment aussi souligner le fameux siège de Paris qui a duré de septembre 70 à janvier 71, une période et des mois terribles pour les Parisiens qui ont résisté autant qu'ils ont pu aux troupes prussiennes qui encerclaient la ville.
En effet, au moment où Napoléon III perd la bataille de Sedan, la France ne se rend pas en réalité. La France continue la guerre et les Prussiens viennent assiéger la capitale, hein, puisque dans une guerre, le but est de prendre la capitale de l'ennemi. Si bien que les Parisiens se retrouvent assiégés du mois de septembre, en effet, jusqu'au mois de janvier 1871, soumis au froid et à la faim pendant de nombreux mois. Les Parisiens, la population de Paris a énormément souffert pendant ce siège. Avec un courage patriotique, c'est-à-dire que jamais on n'a parlé de capituler devant l'ennemi. On veut continuer à se battre.
Et pourtant, c'est ce qui se passe.
Et pourtant, c'est ce qui se passe, puisque effectivement, devant cette situation où les Prussiens bloquent une grande partie de la moitié nord du pays, en fait de la moitié nord de la France, eh bien, les négociations sont menées par Jules Favre. Et finalement, on aboutit à un armistice avec la Prusse, qui va devenir l'Allemagne à ce moment-là, qui va unifier les peuples de langue allemande et devenir l'Allemagne. Le 28 janvier, l'armistice est signé entre le gouvernement légal de la France et le gouvernement allemand, le nouveau gouvernement allemand.
Le gouvernement de la France, là, il est à Paris à ce moment-là ou il est ailleurs ?
À ce moment-là, le gouvernement est à Paris, mais très rapidement, pour pouvoir négocier les conditions précises de la paix, l'armistice ne suffit pas, il faut un traité de paix pour terminer la guerre, Bismarck réclame de pouvoir négocier avec un gouvernement régulièrement élu, parce que le gouvernement auquel il a affaire, c'est un gouvernement de coup d'État. Il a pris le pouvoir par la force le 4 septembre 1870. Donc Bismarck, très intelligemment, très finement, demande aux Français de régulariser leur situation et il veut avoir affaire à une assemblée élue par le peuple. Donc on organise effectivement des élections législatives qui vont porter au pouvoir au mois de février une assemblée nationale régulièrement élue par les Français, qui ne peut pas siéger à Paris, celle-ci, et qui va donc se déplacer à Bordeaux. C'est à Bordeaux que les députés français se réunissent en assemblée pour définir les conditions du traité de paix avec la Prusse.
Ça, c'est en février 1871, et le 1er mars a lieu une manifestation tout à fait officielle et organisée, qui est le défilé des vainqueurs dans Paris et qui en rajoute au traumatisme que constitue la défaite face à l'armée prussienne.
En effet, les Parisiens non seulement n'acceptent pas cette défaite et considèrent que signer un armistice, c'est un peu faire fi de toutes les souffrances qu'ils ont dû endurer pendant ce siège et pendant cet hiver terrible. Et en plus, les Prussiens imposent au gouvernement français de faire défiler leurs troupes sur les Champs-Élysées le 1er mars 1871, ce qui est, dans l'esprit de l'époque, voilà, une humiliation. Nous sommes à une époque extrêmement patriotique, il faut se replacer, ça c'est toujours la difficulté de l'historien, c'est d'essayer de comprendre la mentalité des gens qui vivent à cette époque. Et pour eux, voir défiler les Prussiens avec leurs casques à pointe sur les Champs-Élysées est quelque chose d'insupportable.
On dit que ce jour-là, les statues de Paris sont recouvertes d'un voile noir.
Oui, on a drapé les statues de crêpes noires, puisqu'à l'époque, le deuil est quelque chose qui se porte. Donc, on a voulu que les statues de Paris portent le deuil de l'honneur de la France qui a été foulé aux pieds par l'arrivée des Prussiens dans la capitale.
Le 1er mars 1871, les troupes allemandes défilent dans Paris, les troupes prussiennes. C'est une humiliation supplémentaire pour non seulement pour la France, mais pour les Parisiens qui ont essayé de tenir le siège qu'il leur était imposé pendant des mois. Les choses ensuite prennent une tournure dont on peut dire qu'elle est inattendue, Claire Loher, ou qu'il y avait déjà des prémices d'une insurrection possible.
C'est assez difficile de refaire l'histoire a posteriori, mais je dirais qu'il y avait tout de même des prémices dans la mesure où, à l'intérieur du mouvement républicain, donc qui avait pris naissance et qui avait trouvé son terreau dans l'opposition au Second Empire, il y avait différentes tendances, parmi lesquelles certains groupements assez radicaux qui espéraient non seulement arriver à la République, mais à ce qu'ils appelaient une République sociale, c'est-à-dire qui protège les éléments ouvriers de la population et qui met en place des lois favorables aux plus défavorisés.
Alors il faut s'arrêter sur la date du 18 mars 1871 qui, si j'ose dire, met le feu aux poudres.
En effet, l'expression est bien choisie puisque le 18 mars 1871, c'est l'affaire des canons qui se déclenche dans Paris. Il faut savoir que pendant le siège, les Parisiens se sont munis d'un certain nombre de canons de manière à pouvoir résister aux Prussiens, à pouvoir leur tirer des boulets de leur côté, pas être simplement une cible devant l'artillerie allemande. Pouvoir se défendre. Et surtout que ces canons ont été financés par le peuple de Paris. C'est-à-dire que c'est par souscription publique que ces canons ont été fondus, ont été financés grâce à tout le peuple de Paris, les riches et les moins riches. Même Victor Hugo, par exemple, a appelé à cette souscription en écrivant un certain nombre de poèmes. Les Parisiens considèrent que ces canons leur appartiennent et donc on les a mis en sûreté à plusieurs endroits et en particulier à un endroit assez inaccessible qui est la butte Montmartre au nord de Paris, qui est assez difficile d'accès.
Pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas aux mains des Prussiens le cas échéant.
C'est là que la question se complique. Aux mains de qui ne doivent-ils pas tomber? Ils ne doivent pas tomber, bien sûr, aux mains des Prussiens, c'est-à-dire de l'ennemi. Mais assez rapidement, on considère aussi qu'ils ne doivent pas tomber aux mains du gouvernement issu des élections du mois de février, c'est-à-dire de l'Assemblée qui siège à Bordeaux et qui est une Assemblée à majorité monarchiste, une majorité conservatrice, puisque la plupart des Français à cette époque sont ruraux, ils n'habitent pas dans des villes et eux, ils ne veulent plus entendre parler de la guerre. Ils ont voté pour des gens qui allaient leur amener la paix, la sécurité et en terminer avec les guerres. Et donc, en fait, l'Assemblée de Bordeaux est opposée idéologiquement à ce que représente l'opinion publique ouvrière parisienne. Donc, on protège aussi les canons contre les députés.
Et donc, le chef du gouvernement de cette République, c'est Adolphe Thiers, qui veut les récupérer, ces canons.
Adolphe Thiers a bien compris que les canons remettaient en cause son autorité et sa légitimité en tant que chef du gouvernement désigné par les députés. Et donc, il veut absolument que les canons reviennent aux mains de l'armée régulière, c'est-à-dire l'armée nationale, celle qui se trouve hors de Paris. Et donc, on va envoyer des troupes récupérer les canons sur la butte Montmartre au matin du 18 mars 1871.
Ils doivent faire face à la foule, à des troupes qui, malgré tout, s'opposent à ce que ces canons soient récupérés.
Thiers s'attendait à ce qu'il y ait des difficultés, c'est pour ça qu'il a envoyé les troupes très tôt, au petit matin. C'est vers 4 ou 5 heures du matin que les troupes commencent à monter pour récupérer les canons au sommet de la butte. Seulement, évidemment, à cette époque, il y a des gens déjà qui travaillent à 5 heures du matin à Montmartre, parce que ce sont de petites gens, il y a des lavandières en particulier, qui voient monter les soldats vers le sommet de la butte. Et là, d'un seul coup, la population de Montmartre se dit « mais ce sont nos canons, c'est nous qui les avons payés, donc nous n'allons pas donner nos canons ».
Et donc, qu'est-ce qui se passe ?
Les généraux qui ont entrepris donc de mener les bataillons qui vont chercher les canons ont juste commis une petite erreur, c'est qu'ils n'ont pas prévu les chevaux pour tirer les canons. Alors, ça paraît un peu curieux, ils ne se sont pas très bien organisés. À l'époque, vous savez, pour tirer des canons, c'est très lourd, c'est des canons en fonte, donc il faut des chevaux. Alors, les soldats s'installent au sommet à côté des canons pour les garder. En attendant, on va chercher les chevaux. Et à 11h du matin, il n'y a toujours pas de chevaux. Les soldats sont au sommet de la butte et autour d'eux, la foule populaire s'amasse, elle vient de plusieurs quartiers, de Ménilmontant également, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Et petit à petit, l'atmosphère devient de plus en plus orageuse jusqu'à ce qu'un coup de feu parte et on tire sur un garde national, c'est-à-dire un représentant de l'armée parisienne, qui est blessé et qui est couché sur le sol. À ce moment-là, le général qui emmène le bataillon de soldats venus chercher les canons refuse d'envoyer ce soldat vers l'hôpital et il est pris à partie par la foule. Et là, il se produit ce que redoutait sans doute Adolphe Thiers, c'est-à-dire que les soldats gouvernementaux vont fraterniser avec la foule. Ils sont restés là pendant des heures ensemble à discuter et au bout d'un moment, ils ont trouvé qu'ils avaient des intérêts communs. Et donc, les soldats mettent crosse en l'air et le général Lecomte est fait prisonnier par ses troupes et il est emmené dans la mairie du 18e arrondissement pour y être jugé.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour balai ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est un père enfin qui travaille des jours et quelquefois des nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
Claire Loher, le général Lecomte, est fait prisonnier et emmené pour être jugé. Qu'est-ce qu'on fait de lui finalement ?
À partir de ce moment, justement, les témoignages que nous avons à l'époque sont très confus. Ce qu'il en résulte, en tout cas, c'est que après l'arrestation d'un second général qui habitait dans le quartier et qui était venu simplement en voisin, qui n'était même pas en uniforme et qui a été arrêté également, les deux hommes sont fusillés en fin d'après-midi, vers 17h, rue des Rosiers, c'est l'actuelle rue du Chevalier de la Barre à Montmartre, c'est-à-dire que on a tué deux généraux de l'armée française et c'est la population parisienne qui a commis cet assassinat, puisqu'en réalité, il n'y a pas eu de véritable jugement.
Mais pourquoi est-ce qu'ils sont fusillés ?
Lecomte est fusillé parce qu'on considère qu'il a voulu faire tirer sur la foule au moment où les canons devaient être enlevés du haut de la butte Montmartre. Quant à Clément Thomas, il avait pris la tête des événements en juin 1848, donc d'une révolution précédente. Vous voyez qu'on a la mémoire longue à Paris. On s'était souvenu qu'il avait fait tirer sur la foule en juin 1848. Et donc, ils sont fusillés, entre guillemets, en tant que massacreurs du peuple. C'est comme ça qu'on les présente à l'époque dans Paris.
Et donc là, ça appelle bien sûr une réponse très ferme et très radicale de la part du gouvernement.
Tout à fait. À partir de ce moment-là, Adolphe Thiers comprend que la situation n'est pas rattrapable d'une certaine manière, que lui-même d'ailleurs est en danger. Il quitte Paris, il va s'installer à Versailles pour essayer de reprendre la ville depuis l'extérieur et mobiliser les troupes de l'armée régulière pour assiéger Paris. Paris sort du siège avec les Prussiens et va être désormais assiégé par des Français.
On va peut-être revenir ultérieurement à cette décision quand même très symbolique d'aller s'installer à Versailles. J'aimerais qu'on dise un mot là de différents protagonistes qui déjà entrent en scène, si je puis dire, au cours de ce mois de mars 1871.
En effet, le 18 mars 1871, sur la butte Montmartre, se trouvent deux personnages qui vont jouer un rôle important non seulement dans l'histoire de la Commune, mais aussi dans l'histoire de France. Le premier personnage, c'est Louise Michel. C'est une communarde. Elle est institutrice de métier et elle penche fortement vers l'anarchisme politique. Et à ce moment-là, c'est elle qui appelle la foule à venger la blessure, la mort d'ailleurs de Turpin, puisque Turpin va mourir des suites de ses blessures. Elle harangue la foule. C'est une femme qui prend la parole en public. C'est assez notable pour l'époque. Elle, normalement, les femmes ne jouent pas de rôle politique à cette époque. Or, Louise Michel va avoir un rôle important. Elle va même porter l'uniforme et porter les armes. Et puis, à côté d'elle, se trouve un autre personnage très important aussi, puisqu'il s'agit de Georges Clémenceau. Georges Clemenceau, à cette époque, est maire du 18e arrondissement. Il est encore très jeune à l'époque. Il a été élu par la population du 18e arrondissement. Et il est aux côtés de Louise Michel pour demander qu'on donne de l'aide à Turpin, ce fameux garde qui a été blessé. Il veut qu'on l'emmène à l'hôpital. Mais il se rend assez vite compte que finalement, on préférerait que Turpin reste sur le sol et qu'on s'attaque directement aux généraux. C'est-à-dire qu'il voit immédiatement les excès vers lesquels la foule va verser. Il est même obligé d'ailleurs de se replier dans sa mairie parce qu'il est lui-même pris à partie et en danger.
Mais globalement, il fait quand même partie de ceux qui essayent d'apaiser.
Tout à fait, tout à fait. Clemenceau, c'est un républicain historique, mais il est opposé à toutes ces formes de violence qu'il voit se développer assez vite puisqu'il est dans un quartier très populaire. Il va effectivement essayer de réconcilier les deux parties, mais il n'y parviendra jamais. En revanche, il va rester toujours et jusqu'à la fin de sa vie l'ami de Louise Michel puisqu'ils vont échanger une importante correspondance.
On dit aussi qu'il en garde un vrai traumatisme, une très grande culpabilité de cette expérience en fait terrible hein, de la Commune de Paris.
En effet, puisque Clemenceau n'a pas pu empêcher le meurtre des deux généraux alors qu'ils se trouvaient sur les lieux, pour lui c'est un acte inique, c'est un acte qui n'est absolument pas justifiable. Il peut le comprendre, mais il ne peut pas l'excuser et il se reprochera assez longtemps de n'avoir rien pu faire. Mais lui-même d'ailleurs sera pris à partie, d'abord par la foule et ensuite par les Versaillais. À la fin de la Commune, il est obligé de se cacher sous un faux nom parce qu'on considère qu'il a fait partie des communards, ce qui est tout de même un comble de l'histoire.
Alors dans le contexte qu'on est en train de décrire, se replier à Versailles pour un gouvernement, c'est un signal quand même particulièrement fort.
C'est un signal particulièrement fort. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Assemblée nationale était à majorité monarchiste. Les Parisiens ont mis en place une république le 4 septembre et au mois de février 1871, les Français votent pour rester dans un système monarchique. Ce qui veut dire que quand Adolphe Thiers décide de se replier sur Versailles, il se replie sur la ville de la monarchie, sur la ville de Louis XIV, la ville du Soleil.
Quoi.
Bien sûr, ça n'est pas un hasard et c'est une décision qui est interprétée de manière très négative par les Parisiens. C'est vraiment Paris contre Versailles, c'est Paris contre la province, c'est les ouvriers contre les paysans aussi, puisque la France est largement paysanne, et ce sont les républicains contre les monarchistes.
Et qu'en est-il de l'armée qui suit le gouvernement et de toutes les forces armées qui peuvent intervenir au nom de cette république ?
À l'intérieur de Paris, l'armée est une armée de... Ce sont ceux qu'on appelle les gardes nationaux, les fédérés, donc ce sont les Parisiens, une espèce de milice urbaine qui compte quand même plusieurs centaines de milliers d'hommes, donc c'est une armée très importante. Du côté des Versaillais, c'est l'armée qui vient de province, et là, Thiers va être particulièrement habile, puisqu'il réquisitionne en partie des soldats qui viennent de provinces non francophones. Je m'explique, à l'époque, il y a des provinces en France où on ne parle pas français. C'est le cas de la Bretagne, par exemple. En Basse-Bretagne, on parle breton. Donc, Thiers va faire venir beaucoup de jeunes soldats qui viennent de ces provinces parce que ce qu'il redoute, c'est cette fraternisation qu'on a vue le 18 mars, le jour des canons de Montmartre. Il ne veut pas que les soldats réguliers puissent fraterniser avec les Parisiens. S'ils ne parlent pas la même langue, ils ne pourront pas se comprendre.
Claire Loher, quand on parle de la Commune de Paris, de quoi est-ce qu'on parle exactement, la Commune de Paris avec un C majuscule ?
Il faut savoir qu'à cette époque, Paris est une ville qui a un statut particulier en France. Bien qu'il s'agisse de la capitale du pays, c'est une ville qui n'a pas de municipalité, qui n'est donc pas une commune. Il n'y a pas de maire de Paris, il n'y en a d'ailleurs pas eu pendant très longtemps, puisque je vous rappelle que le premier maire élu de Paris a été Jacques Chirac à la fin du XXe siècle. Donc, Paris est dirigé directement par le gouvernement. Il y a un préfet de police. Et c'est donc une ville qui ne peut pas prendre elle-même ses décisions.
Par contre, il y a quand même des maires d'arrondissement, puisque vous nous avez dit que Clemenceau est maire du 18e arrondissement.
Tout à fait. Il y a une organisation par arrondissement dans la ville, mais il n'y a pas de pouvoir centralisé, si l'on veut, à l'intérieur de Paris.
Ça relève donc du gouvernement ?
Ça relève du gouvernement parce que Paris est une ville turbulente, c'est une ville qui s'agite et qui fait la révolution depuis fort longtemps. Déjà Étienne Marcel au Moyen-Âge, donc le gouvernement de la France se méfie terriblement de Paris depuis fort longtemps.
Alors qu'est-ce qu'ils font ces communards au mois de mars 1871 quand l'insurrection commence vraiment à prendre de l'importance ?
L'insurrection prend de l'importance en particulier quand cette assemblée qui est à Bordeaux vote un certain nombre de décisions. Alors d'abord, il y a évidemment la paix avec la Prusse qui se fait à des conditions terribles, puisqu'il y a la perte de 3 départements français. Il y a le paiement d'une indemnité de guerre de 3 milliards de francs or, ce qui est absolument énorme. Là aussi, une fois de plus, Paris se dit « mais alors tous les sacrifices que nous avons faits n'ont servi à rien, puisque nous sommes vaincus et nous allons perdre une partie du territoire ». Déjà, cette décision, elle est très négative pour les Parisiens. Les députés prennent également 2 autres décisions qui sont très maladroites. Pendant le siège, les loyers avaient été suspendus, puisqu'il n'y avait plus aucune vie économique dans Paris. Or, à partir du mois de mars, il faut à nouveau payer les loyers. Pourtant, la situation économique n'est pas rétablie. Et puis la deuxième chose, c'est que la garde nationale, qui était donc l'armée parisienne qui avait été levée pendant le siège, doit être dissoute. Et si les gardes nationaux ne sont plus soldats, alors ils ne toucheront plus leur solde, ils n'auront plus de quoi vivre.
Ça suscite bien sûr des réactions très vives de la part de la population.
Oui, le 15 mars, les gardes nationaux qui refusent donc de quitter leur poste élisent un comité central, c'est-à-dire déjà un embryon finalement de gouvernement parisien. Et ce gouvernement leur garantit qu'ils vont continuer à toucher leur solde quotidienne, qui est pour certaines familles le seul moyen de survie. Il n'y a plus de travail hein, dans Paris, c'est la guerre. Hein. Et puis surtout, le 26 mars, on va enfin organiser des élections à Paris pour élire une commune, c'est-à-dire non seulement des maires d'arrondissement, mais un vrai maire pour la ville.
Qui sont ceux qui se présentent? Est-ce qu'il y a une vraie campagne? Comment ça se passe?
Nous sommes vraiment dans la continuité du mouvement républicain qui était dans l'opposition sous le Second Empire. C'est-à-dire que tous ces hommes qui ont œuvré dans les journaux d'opposition sous le Second Empire vont en général être élus dans tous les arrondissements parisiens. Ils vont faire partie des comités, ils vont devenir ministres du nouveau gouvernement. On trouve parmi eux Delescluze, c'est un intellectuel, c'est un ancien professeur au Collège de France et c'est un homme qui porte des idéaux sociaux. On trouve aussi un autre personnage qui va jouer un rôle très important qui s'appelle Jules Vallès et qui est très connu parce que c'est un écrivain français qui a laissé son témoignage sur la commune dans un roman qui s'appelle L'insurgé. On trouve des personnages tous masculins, puisque les femmes ne peuvent pas être sur les listes électorales et n'ont pas le droit de vote, mais principalement des gens qui ont déjà un passé politique, en fait.
Est-ce que l'ensemble de la population parisienne se sent concernée par ce qui se passe, ou bien on peut noter aussi une forme d'indifférence ?
Pour l'instant, au mois de mars, la ville n'est pas encore en guerre à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est plutôt le siège qui continue, en fait. Il se trouve que dans l'opinion parisienne, dans la population parisienne, il y a un véritable clivage entre ceux qui sont pour la commune et ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour, on les retrouve principalement dans les arrondissements populaires. Il faut savoir que sous Napoléon III, le préfet Haussmann a agrandi Paris. Paris est passé de 10 à 20 arrondissements et que les 10 arrondissements supplémentaires qui ont été ajoutés sont souvent des arrondissements populaires. C'est le cas de Montmartre. C'est le cas de Ménilmontant, où il y a beaucoup d'ouvriers, d'artisans. Ces gens-là sont favorables à la commune. Et puis, il faut savoir également qu'à la fin du siège par les Prussiens, une partie de la population de Paris a quitté la ville parce que quand on avait une maison à la campagne, on n'allait pas rester dans une ville où il n'y avait plus rien à manger, où la situation était très dure. Donc, les quartiers bourgeois de Paris se sont vidés, en particulier l'Ouest parisien, si bien qu'au moment des élections, qui reste dans la ville pour voter et donc pour voter en faveur de la commune? Les ouvriers parisiens. Et c'est ce qui explique en particulier que plus de la moitié des voix se portent sur les candidats républicains favorables à la commune.
Paris se retrouve avec un maire, plus des maires d'arrondissement.
Et alors puis... Paris se retrouve avec un collège en fait électoral, puisque dans la logique des communards, il ne faut pas qu'il y ait de chef unique. Il y a une remise en cause de l'autorité. Donc en fait, on a plusieurs personnages qui se trouvent au sein d'un collège de gouvernement de Paris.
Est-ce que c'est à ce moment-là que le drapeau rouge est adopté ?
Le drapeau rouge existait déjà dans l'imaginaire des ouvriers parisiens depuis 1848, depuis la grande répression de juin 1848, au moment de la Seconde République. Il va effectivement être adopté par la commune et devient l'emblème. Hein, c'est le linge qui est trempé du sang des ouvriers qui se sont sacrifiés pour la cause.
Et une chanson lui est consacrée.
Dans la fumée et le désordre, parmi les cadavres épars, il était du parti de l'ordre, au massacre du Champ de Mars. Le voilà, regardez, il flotte
trotte et fièrement il bouge. C'est l'ampli au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier.
Donc l'ouvrier, les travailleurs, les petites gens sont parmi les plus importants qui constituent la population parisienne à ce moment-là, Claire Loher. Malgré tout, est-ce que d'autres classes sont représentées ?
Paris, en réalité, a une sociologie très particulière à cette époque. C'est une ville dont les ouvriers sont beaucoup plus qualifiés qu'ailleurs. Paris n'est pas une ville de grandes usines pour main-d'œuvre non qualifiée. Paris est une ville où on pratique l'artisanat du luxe et l'artisanat du livre, qui sont très importants à cette époque. Et les ouvriers parisiens sont un petit peu l'aristocratie ouvrière, en fait, du 19e siècle, puisqu'ils ont un savoir-faire qu'on trouve rarement dans les autres villes. On les trouve, je vous le disais, dans les métiers du luxe. Par exemple, vous avez des ouvriers plumassiers, des ouvriers qui travaillent l'écaille, donc des gens qui sont en contact avec une clientèle assez fortunée, qui ont pu acquérir une certaine culture avec ces métiers. Et puis surtout, on trouve des ouvriers du livre. Et ça, c'est l'aristocratie ouvrière, parce qu'à l'époque, pour faire un livre, eh bien, il faut composer les pages, donc il faut savoir manier les caractères mobiles, il faut savoir lire un texte, il faut savoir l'orthographe, il faut savoir la grammaire, il faut être capable de corriger des erreurs dans un texte. Et puis quand on est ouvrier typographe, bien on lit énormément, puisque on lit tous les livres qu'on a appris, mais donc par goût, en général, on lit aussi les journaux et les journaux d'opinion.
Et donc les idées se répandent.
Les idées se répandent beaucoup par les ouvriers du livre, effectivement. Et puis, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a que des ouvriers ? Non, il y a aussi, effectivement, beaucoup de petits patrons. Il y a beaucoup de petits ateliers à Paris qui embauchent 2-3 ouvriers compagnons. Et ces petits patrons-là, ils ont quasiment le même quotidien que leurs ouvriers. Et ils sont souvent du côté de la commune.
Est-ce qu'il y a aussi des intellectuels parmi les communards ?
Il y a des intellectuels et en particulier il y a beaucoup de journalistes et d'avocats qui sont des professions qui mènent traditionnellement vers la carrière politique au 19e siècle. Je citais tout à l'heure Jules Vallès. Jules Vallès fait partie des grandes figures de la Commune. Or, c'est un journaliste puisqu'il est à la tête du journal Le Cri du Peuple.
Quels sont les idéaux que défendent, les valeurs que défendent ces communards ?
Très curieusement, je dirais avec notre regard du 21e siècle, on sera peut-être surpris de voir que les communards défendent la valeur du travail. Pour eux, celui qui travaille doit toucher la contrepartie de son travail. Il n'est pas question de vivre sans travail. Chacun a droit à un travail digne, un travail qui lui permette de se nourrir et de nourrir sa famille. Par exemple, parmi les femmes communardes, beaucoup luttent contre la prostitution. Elles considèrent que la prostitution est une manière indigne de gagner sa vie et que les femmes ont droit à un travail qui soit rémunéré assez justement pour justement éviter de se livrer à la prostitution.
Il y a aussi un souci d'instruction et de justice sociale.
Oui, la justice sociale, alors elle s'est beaucoup fait jour pendant le siège par les Prussiens parce qu'il y avait des difficultés à se nourrir dans Paris. Donc il a fallu organiser des coopératives, des cantines. L'une d'elles qui était menée par une femme qui s'appelait Nathalie Lemel, qui s'appelait la Marmite, a nourri en fait tous les indigents, tous ceux qui ne pouvaient plus se nourrir pendant le siège. Et puis effectivement, l'instruction fait partie des grandes revendications des communards qui considèrent que pour que le peuple puisse s'améliorer, il faut qu'il ait l'instruction minimale, c'est-à-dire qu'il sache lire, écrire et compter.
Est-ce qu'on peut déjà parler de socialisme à ce moment-là ?
Disons que le mot socialisme à cette époque ne revêt pas le sens qu'il a pris ensuite au XXe siècle et aujourd'hui au XXIe siècle. Il faut vraiment y entendre le mot social. Quand on parle à l'époque de révolution, on appelle ça la sociale. La sociale, ça veut dire ce monde un peu utopique dans lequel tout le monde trouverait à vivre de son travail de manière juste, avec une rémunération qui soit juste par rapport au travail qui est fourni.
Là, ce qu'on peut constater de cette commune de Paris, dans ces 71 jours, est-ce qu'on a le temps de voir si ça fonctionne ?
On va prendre beaucoup de décisions, mais on va très peu les appliquer parce que, en fait, la commune, un énorme défaut, c'est qu'elle refuse l'autorité. Elle refuse l'autorité des députés, elle refuse l'autorité du gouvernement, mais même à l'intérieur de sa propre organisation, elle refuse aussi l'autorité, si bien qu'il n'y a pas vraiment de chef dans la commune. Et chacun fait un peu ce qu'il veut faire, ce qui va d'ailleurs donner des catastrophes sur le plan militaire. Des grands chefs militaires de la commune, Louis Rossel, se plaint tous les jours de ce que ses hommes ne lui obéissent pas. Et finalement, toutes ces décisions qui sont prises, eh bien, elles sont un peu lettre morte parce qu'il n'y a pas de pouvoir exécutif. On n'exécute pas la loi.
Pour revenir sur les termes qu'on voit traverser toute l'histoire de cette commune de Paris, on peut repérer les termes d'anarchisme ou d'esprit libertaire.
En effet, les différents courants politiques de gauche de cette époque se retrouvent sous la Commune, mais se disputent aussi. C'est-à-dire que les conversations d'opinion sont très importantes. Il y a tout un mouvement de club en particulier qui se forme, c'est-à-dire cette espèce d'assemblée où tout le monde se retrouve pour échanger des idées, où les femmes d'ailleurs commencent à prendre un peu leur place. Elles prennent aussi parfois la parole en public et où on essaye de trouver les termes de la bonne société. Mais pendant qu'on discute, on n'agit pas beaucoup. Et sur le plan militaire, on ne fait pas grand-chose non plus pour essayer de libérer la ville qui est toujours assiégée, à l'est par les Prussiens et à l'ouest par les Versaillais.
Claire Loher, cette expérience, cette parenthèse communarde, on l'a vu, elle est de très courte durée, 71 jours, de mars à mai 1871. Et comme on va le voir avec vous maintenant, elle s'achève dans le sang. Qu'est-ce qui fait que c'est si court? Ça n'était pas admissible de la part du gouvernement que Paris échappe comme ça à sa mainmise et à son autorité?
Il s'agit d'une véritable sécession de la capitale de la France envers un gouvernement qui a été régulièrement élu. Donc, effectivement, il n'est pas admissible pour Adolphe Thiers que Paris refuse d'obéir à ses députés et ne se soumette pas à l'armée qui est l'armée légitime de la France. Donc, on ne pouvait pas laisser traîner cette affaire trop longtemps. C'était tout de même un risque à prendre pour le pays, d'autant que d'autres mouvements insurrectionnels apparaissent dans d'autres villes. À Lyon, à Marseille, il y a aussi des communes.
Alors ça veut dire qu'il pourrait y avoir une solidarité entre ces différentes villes et qu'au bout du compte, la province soutient le mouvement parisien ?
Les communes de province sont très vite écrasées, beaucoup plus vite que Paris, parce qu'en réalité, elles ne s'appuient pas sur une population assez importante. En fait, une ville comme Lyon ou une ville comme Marseille sont moins peuplées que Paris. Et il est bien clair que les populations rurales des environs n'ont jamais adhéré à ce système politique. Pour eux, les communards, ce sont les partageux, ce sont ceux qui les empêchent d'accéder à ce qu'ils veulent. Ce que veulent les paysans, eux, c'est avoir la terre, c'est posséder la terre. Donc, ils ne partagent pas du tout les mêmes idéaux.
Donc, à un moment donné, il faut mettre un terme à cette sécession, à cette guerre civile. Et ça va se faire par les armes, évidemment.
Effectivement, Adolphe Thiers ne choisit pas la négociation. À partir du moment où deux généraux de l'armée régulière ont été assassinés, il ne peut s'agir que d'une répression. Donc, il va concentrer ses troupes au sud-ouest de Paris et depuis Versailles, reprendre la capitale dans une opération militaire.
Donc, les généraux, je le rappelle, ont été assassinés le 18 mars 1871. Il faut 2 mois pour venir à bout de la Commune de Paris ?
Il va falloir 2 mois, effectivement, parce que tout de même, parmi les communards, on trouve au moins 2 généraux qui sont d'excellents militaires. On trouve Louis Rossel, donc qui est le seul général français qui est pris parti pour la Commune et qui donc mène une partie des troupes au combat avec efficacité. Et puis on trouve aussi une figure assez exotique qui est le général Dombrowski. Dombrowski, c'est un Polonais. Il est né sujet russe puisqu'à l'époque, la Pologne n'existe pas et donc son pays a été absorbé par la Russie des Tsars. Et en 1863, donc 8 ans auparavant, il a participé à l'insurrection des Polonais de Varsovie contre les Russes. Il a été arrêté, il a été condamné au bagne en Sibérie, il s'est évadé et quand il arrive en France, où il a trouvé refuge en tant que banni évadé de Russie, il rejoint la petite colonie polonaise de Paris et il va prendre fait et cause pour les communards et être un bon général finalement pour ses troupes de fédérés.
C'est-à-dire que son expérience sert à la résistance?
Exactement. L'expérience qu'il a acquise à Varsovie va lui être utile à Paris.
Quand vous dites qu'il n'y a pas de négociation, ça veut dire qu'il y a vraiment les liens sont complètement rompus, les contacts rompus entre Versailles et les communards?
C'est très juste ce que vous dites. Il n'y a pas eu d'essai de négociation. La seule chose qu'a essayé de faire Thiers, c'est d'acheter Dombrowski en se disant qu'une forte somme d'argent lui permettrait peut-être de se débarrasser de ce bon général. Dombrowski a refusé, mais il n'y a eu aucune tentative de véritable négociation entre les deux gouvernements de la France, celui de Paris et celui de Versailles.
Et donc on l'a vu, hein, même Clémenceau a échoué.
Même Clémenceau a échoué.
Alors qu'est-ce qui se passe en mai 1871 et notamment le 21?
Le 21 mai 1871, les troupes versaillaises qui sont cantonnées au-delà de la porte de Saint-Cloud, donc au sud-ouest de Paris, se rendent compte que cette porte n'est pas gardée, et que les soldats fédérés de Paris sont partis ailleurs. On ne sait pas exactement où ils sont. En tout cas, il n'y a personne. Il y a même un habitant du quartier qui dit aux troupes versaillaises, qui leur dit « Mais venez, venez, entrez, il n'y a personne, ça n'est pas gardé. » Ce qui prouve qu'une partie de la population parisienne n'est pas favorable à la Commune. Et effectivement, le 21 mai au matin, les troupes versaillaises parviennent à entrer dans Paris et vont assez rapidement organiser une reprise en main de la capitale depuis les quartiers ouest vers les quartiers est. Parce que ça, c'est une armée qui est gouvernée, l'armée versaillaise, et qui fonctionne avec des officiers qui savent faire la guerre.
Et donc, ils progressent petit à petit, reprennent certains quartiers de la capitale. Seule la partie nord-est continue de résister.
À partir du moment où on apprend que les troupes versaillaises sont entrées dans Paris, des barricades sont édifiées pour boucher les grandes artères, les grandes rues, pour empêcher la progression des troupes versaillaises. Et donc les troupes de la commune vont résister de barricade en barricade, les abandonnant au fur et à mesure de l'avancée des Versaillais entre le 21 et le 28 mai, et vont finalement résister au dernier moment dans le réduit nord-est et autour du cimetière du Père-Lachaise.
Tout ça, ça va durer une semaine ?
C'est ce qu'on a appelé la semaine sanglante, effectivement, du 21 au 28 mai, où Paris est balayé d'ouest en est par les troupes versaillaises qui reprennent la main sur la ville.
Alors il y a une chanson, c'est étonnant, hein, qui est associée à cette semaine sanglante, à toute cette période. C'est la chanson « Le temps des cerises » qui, quand on l'écoute, ne fait pas forcément tout de suite penser à cet épisode tragique, hein, de l'histoire de France. Quelle est l'histoire de cette chanson, Claire Loire ?
La chanson « Le temps des cerises » a été écrite par Jean-Baptiste Clément bien avant la Commune, enfin plusieurs années avant, pendant les années 1860. C'était en fait une chanson qui appelait de ses voeux le gouvernement républicain et qui, au moment de la Commune et de la Semaine sanglante, va être reprise par les ouvriers, parce que quand on parle des cerises, en fait, on pense aux taches de sang qui vont émailler les vêtements des ouvriers qui vont tomber sur les barricades.
Alors on l'écoute, cette chanson.
Et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez.
Voilà, le temps des cerises, interprété ici par Marc Augeret. Claire Loer, elle est absolument tragique, cette fameuse semaine de mai 1871. Elle est tellement tragique qu'elle est désormais entrée dans l'histoire sous le nom de semaine sanglante.
Oui, c'est véritablement une guerre civile. Ce sont des Français qui s'assassinent au sein de leur capitale, sous les yeux des Prussiens d'ailleurs, qui assistent en spectateurs à cette semaine du 21 au 28 mai, et qui compte un grand nombre de massacres de population. On estime que le nombre de victimes est compris entre 20 et 30 000 personnes qui, en une semaine, ont été tuées dans les rues de Paris.
Ce sont des ordres qui ont été donnés, ou ce sont ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme des bavures ?
L'ordre a été donné, il a été, disons, outrepassé. Il s'agissait effectivement de se débarrasser de toute personne suspecte, mais une personne suspecte, voilà, on regarde vos mains, vous avez les mains un peu noires, on considère que c'est de la poudre, que vous avez tenu un fusil, et on vous exécute, on vous fusille contre un mur. C'est-à-dire que les soldats, en fait, ont laissé libre cours à leur cruauté, à leur esprit de vengeance, peut-être, je ne sais pas, parce qu'effectivement, il y a eu aussi des morts. La commune a fait exécuter des otages, par exemple, et on a assisté vraiment à des scènes d'une barbarie inouïe, puisque Victor Hugo, par exemple, raconte qu'il a vu fusiller une femme avec un nourrisson dans ses bras.
Vous pensez que c'est un rapport avec la guerre contre les Prussiens, que tout ça c'est un climat finalement d'horreur qui prend une tournure complètement anarchique au sein de la commune ?
Il est clair que le fait de sortir d'un siège aussi dur, hein, de plusieurs mois qui ont été très durs pour la population parisienne et pour la France de manière générale, a probablement aggravé les choses. Il faut aussi évidemment évoquer les incendies, puisque oui. Tous ces massacres ont lieu dans une atmosphère terrible, Paris brûle en même temps.
C'est-à-dire, pourquoi ces incendies et qui allume ces incendies ?
Alors, comme il y a des bombardements, à l'époque, il y a déjà des canons qui bombardent, il y a des boulets qui tombent dans Paris, et une partie de la ville est encore construite en bois à cette époque-là. Les grands travaux ne sont pas terminés, ils s'achèveront sous la Troisième République, donc les bâtiments qui sont touchés par les boulets ou par la poudre des canons prennent feu, et les incendies se répandent progressivement dans la ville. Et puis, il faut y ajouter également des incendies volontaires, puisque certains bâtiments ont été détruits par la volonté de certains communards. Alors là aussi, il faut bien distinguer. Tout le monde à l'intérieur de la commune n'était pas favorable à ces incendies. Mais il a suffi qu'un personnage décrète qu'il fallait se débarrasser, par exemple, du palais des Tuileries, qui était le palais au nid d'un empereur qu'on avait détesté, pour y mettre le feu purement et simplement et le voir disparaître en fumée. C'est ainsi que disparaît le palais des Tuileries, qui n'a jamais été reconstruit, ou le palais de la Légion d'honneur également, qui brûle dans un incendie volontaire.
Ou la gare d'Orsay ?
Ou la gare d'Orsay, effectivement. Il y a comme ça des bâtiments qui sont attaqués effectivement à plusieurs endroits de Paris.
Alors ce qui est étonnant, c'est ce que vous dites concernant les Prussiens. Ils ne bougent pas, ils laissent faire les Français qui s'étripent finalement. Ça les arrange ?
Oui, c'est la réelle politique, je suppose, c'est-à-dire une forme de cynisme en politique. Et de fait, ils sont étrangers sur le territoire français. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un gouvernement qui règle les conditions de la paix. Donc, si les Français s'entretuent, d'une certaine manière, ça les arrange. N'oublions pas quand même qu'il y a une rivalité économique très importante à l'époque entre l'Allemagne et la France de la révolution industrielle et que plus la France s'affaiblit, plus l'Allemagne devient puissante. On trouve quand même aussi les racines de ce que sera le XXe siècle avec ces deux guerres mondiales.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la rivalité économique entre la France et l'Allemagne, qui plonge ses racines dans la révolution industrielle du XIXe siècle, explique en partie le premier conflit mondial qui lui-même explique le deuxième.
Est-ce que la semaine sanglante que nous avons évoquée et qui intervient du dimanche 21 au dimanche 28 mai 1871, Claire Loewer, est-ce que cette semaine sanglante, elle met véritablement fin à la Commune de Paris ?
La semaine sanglante, c'est véritablement la fin de ces événements puisque les communards sont soit tués pendant cette semaine, soit arrêtés, soit ils prennent tellement peur à la suite de cette guerre civile qu'ils s'exilent à l'étranger. Et donc le mouvement est totalement décapité à l'issue du 28 mai 1871.
Vous avez parlé de déportation, on peut peut-être en dire un mot concernant la Nouvelle-Calédonie ?
En effet, les personnes qui ne sont pas exécutées purement et simplement dans Paris sont arrêtées, elles sont emmenées en convoi, les gens sont attachés les uns aux autres, à pied jusqu'à Versailles, où les cours de justice vont se tenir depuis le mois de juin jusqu'au mois de décembre 1871 et mener à des condamnations. Plusieurs milliers de personnes sont jugées. Il faut bien se rendre compte que c'est un mouvement d'une ampleur considérable. Parmi ces personnes qui sont jugées, ceux qui sont convaincus d'avoir vraiment participé aux événements, il y a eu beaucoup de non-lieux parce qu'en fait, on a arrêté un peu tous azimuts. Donc certaines personnes sont purement et simplement libérées. Mais ceux qui ont vraiment participé et qui étaient les meneurs de la révolte sont condamnés généralement à la déportation en Nouvelle-Calédonie, qui est le lieu de relégation de l'époque pour les prisonniers politiques, qu'on va mélanger d'ailleurs à des prisonniers de droit commun.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette Commune de Paris ? Est-ce que c'est une véritable parenthèse ou bien c'est quand même un moment qui a marqué l'histoire et dont d'une manière ou d'une autre on est encore les héritiers ?
Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cette commune, donc, qui a été réprimée d'une manière extrêmement brutale, avec des milliers de morts, avait mis en place des mesures, en tout cas avait proclamé des mesures, même si on n'a pas eu le temps de les mettre en place, des mesures qui, en fait, ont été adoptées assez rapidement ensuite par l'Assemblée élue des députés français. D'abord, le gouvernement républicain, eh bien, il s'est enraciné. On n'est pas revenu à la monarchie. Donc, la France est entrée dans une troisième république qui a été la plus longue de notre histoire, puisqu'elle s'est achevée en 1940. Et puis, également, certaines lois ont été adoptées. Je pense aux lois sur l'instruction et je pense également à la loi de séparation de l'Église et de l'État.
Les lois sur l'instruction, d'abord, de quoi s'agit-il ?
Depuis le début du 19e siècle, en fait, les républicains éclairés, mais aussi un certain nombre de patrons sociaux, réclamaient une instruction pour tous, y compris pour la classe ouvrière. Et donc, les communards avaient décrété que tous les enfants, désormais, iraient à l'école pour y apprendre à lire, à écrire et à compter. Tous les enfants, c'est-à-dire à la fois les garçons et les filles, ce qui était quelque chose de très important et novateur pour l'époque. Or, il n'a pas fallu attendre bien longtemps après la Commune, puisque c'est en 1882 que les lois Jules Ferry ont rendu l'instruction gratuite, laïque et obligatoire pour tous les petits Français, quel que soit le métier de leurs parents, quel que soit leur milieu d'origine, quel que soit l'endroit où ils habitaient sur le territoire.
Donc c'est la Commune de Paris qui a mis les fondements de cette loi.
Qui la première a essayé de la mettre en place, et très rapidement les députés se sont rendus compte que c'était une bonne loi, qu'on avait besoin de citoyens formés dans un pays qui prétendait être une république, et que savoir lire, écrire et compter était quand même la base de l'éducation à donner à tous les êtres humains dans un pays qui prétendait être une république.
Donc la loi de séparation de l'Église et de l'État, ça date aussi de la Commune, en tout cas les prémices?
La Commune instaure effectivement une séparation entre l'Église et l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation officielle entre l'Église catholique, qui jusque-là était donc la religion majoritaire des Français, et les institutions publiques. Évidemment, cette loi n'est pas mise en application puisque la Commune disparaît, mais vous savez bien sûr qu'en 1905, finalement, les députés français votent cette loi de séparation de l'Église et de l'État, qui s'applique à la France de l'époque, c'est-à-dire qui ne s'applique pas aux départements qui à l'époque sont allemands, l'Alsace, donc le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.
La Commune, finalement, c'est un mouvement foncièrement anticlérical ou pas ?
Je dirais que les communards sont de tendance assez variée. On trouve quand même des opinions très diverses parmi eux. Il y a beaucoup d'intellectuels, comme nous l'avons dit déjà, et ces intellectuels peuvent avoir des opinions assez divergentes. Mais il existe parmi eux des communards qui sont foncièrement anticléricaux, qui reprennent la tradition de la Révolution française qui était anticléricale et qui s'appuient sur le fait que l'Église avait été très proche du gouvernement de Napoléon III. Napoléon III s'était appuyé sur l'Église pour gouverner, pour remettre en cause l'autorité de l'Église. Ces anticléricaux sont en particulier représentés au moment où on décide d'assassiner plusieurs otages qui ont été faits par la Commune pendant la Semaine sanglante. Les communards décident d'assassiner 6 personnes, et parmi ces 6 personnes, il y a l'archevêque de Paris, Monseigneur d'Arboise, qui va évidemment entraîner une réaction épidermique des catholiques français qui vont condamner fermement la Commune et voir en Monseigneur d'Arboise un véritable martyr.
Un mot peut-être aussi sur des décisions prises concernant les conditions de travail des ouvriers ?
Oui, tout à fait, puisque une des grandes revendications de l'époque, c'était la diminution de la journée de travail. Les communards décrètent que la journée de travail soit réduite à 10 heures. À l'époque, on travaille 6 jours sur 7, donc 10 heures par jour, ça veut dire 60 heures par semaine. On considère à gauche que c'est un progrès social de ne travailler que 60 heures par semaine. Cette loi sera finalement adoptée en France en 1911 pour l'ensemble des ouvriers.
On termine ces entretiens, Claire Loher, en écoutant un chant désormais connu au plan international. C'est le cas de le dire, c'est l'International. On découvre là que c'est donc un chant révolutionnaire de la Commune de Paris.
Oui, la musique avait été écrite effectivement au moment de la Commune et les paroles ont été rédigées ensuite. Et cette chanson en fait est devenue une espèce d'hymne de ralliement pour les communards survivants, puisque tous ne sont pas morts. Je vous ai dit que certains s'étaient exilés, certains sont revenus de déportation après l'amnistie qui les a touchés en 1880. En 1880, on a considéré que ces prisonniers politiques devaient être libérés. Et donc ils ont adopté une espèce d'hymne qui s'appelle l'International et qui est ensuite devenu très célèbre parce que ça a été l'hymne national de l'URSS communiste qui était dans la filiation du mouvement des communards.
Claire Loher, dans quelle mesure est-ce que la Commune va inspirer les mouvements, alors cette fois socialistes au sens où on les entend au XXe siècle, et même le bolchevisme?
La Commune est le premier mouvement qui a véritablement réussi à prendre le pouvoir, même si ça a été sur une période très courte. Les défenseurs, on va dire, des droits sociaux, des droits du peuple, sont arrivés au pouvoir de mars à mai 1871. Ils constituent donc une espèce d'exemple, de modèle pour ceux qui vont suivre, pour le Parti ouvrier français, pour les mouvements anglais également. Je rappelle qu'à cette époque, Karl Marx vit en Angleterre, il vit à Londres et qu'il y a une importante colonie marxiste qui se trouve en Angleterre. Et puis ensuite, pour bien ceux qui vont réussir à prendre le pouvoir en Russie, c'est-à-dire les bolcheviks à partir de 1917.
On peut dire qu'il y a quelque chose d'utopique dans la Commune. C'est une utopie qu'on essaie de mettre en pratique.
Je trouve que le mot est très bien choisi. Effectivement, il s'agit d'une utopie parce que finalement, les mesures qu'on décrète, qu'on couche sur le papier, on ne les met pas vraiment en application. C'est-à-dire que il n'y a pas cette capacité à créer un véritable gouvernement. Il y a une espèce de rêve, de folie un peu aussi, d'hommes qui ont des idéaux probablement très élevés, mais qui sont incapables de s'organiser pour les mettre en application au moment de la Commune de Paris.
Pourquoi ils en sont incapables finalement? Parce que tout ça est un peu improvisé?
Tout ça est un peu improvisé. Et puis, il y a quand même une espèce de signature de ces personnages qui est la mise en cause de l'autorité. Ils ne veulent pas d'autorité, alors comment seraient-ils capables de mettre en place leur propre gouvernement? Ils refusent d'obéir, ils rêvent un monde où chacun participerait au bien commun sans qu'il y soit obligé. C'est une utopie.
J'ai parlé d'anarchisme précédemment, c'en est une forme?
Les anarchistes sont présents pendant la Commune de Paris. Louise Michel va être de plus en plus anarchiste à mesure que le temps passe. À la fin de sa vie, quand elle meurt en 1905, elle est devenue véritablement anarchiste, hein, au sens technique du terme. Et puis, il y a une autre représentante de l'anarchie aussi qui est présente, c'est Nathalie Lemel, qui fait partie des femmes, des figures féminines qui ont joué un rôle dans la Commune de Paris, par exemple. Elle essaye de réquisitionner des ateliers de travail qui ont été abandonnés par des patrons pour que les ouvriers, en fait, s'approprient leur outil de travail et travaillent par eux-mêmes dans ces ateliers. Donc c'est vraiment une forme d'anarchie. Je vous rappelle que le slogan de l'anarchie, c'est « ni Dieu ni maître », donc anticlérical d'un côté, mais aussi on ne veut pas obéir à des ordres, on est capable de se donner les ordres soi-même. Donc on peut dire que oui, les anarchistes sont présents finalement dans la Commune de Paris.
Et en même temps, on a vu donc là les limites de cette utopie et de ces idéaux.
En effet, on en voit la limite et c'est ce qui explique d'ailleurs que la Commune est une blessure pour l'ensemble de la gauche française. Moi, je pense, à titre personnel, ça n'engage que moi, que c'est un peu un tabou de notre histoire, parce que pour la gauche, c'est une blessure et pour la droite, ça n'est pas forcément une victoire très glorieuse. Gagner une guerre civile, dans le fond, de Français contre Français, c'est pas quelque chose dont on peut forcément être très fier.
Et puis ça, c'est, on l'a dit, hein, ça s'est quand même vécu de manière tout à fait tragique, avec des morts, avec des exécutions, dans une très grande souffrance.
Oui, dans une grande souffrance. Il y a eu énormément d'exécutions sommaires. Il y a eu beaucoup d'innocents qui ont perdu la vie dans cet épisode. Et je crois que l'amnistie qui est venue très rapidement, au bout de 9 ans seulement, en 1880, portée d'ailleurs par Victor Hugo, qui s'est exprimé devant le Sénat pour demander l'amnistie des communards, cette amnistie, elle est assez symptomatique du fait qu'on voulait refermer la plaie.
Merci beaucoup Claire Loher de nous avoir accompagnés dans ces entretiens. Je rappelle que vous êtes avec Alain Frère-Jean, l'auteur du livre intitulé « Le siège et la Commune de Paris, acteurs et témoins racontent ». C'est un livre qui est paru aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Et merci aussi à Antoine Picot qui était à la technique et à Pierre Samanos dans notre studio à Paris.